Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ils vont se passer le relais et le dossier le plus chaud du quinquennat. Jean-Paul Delevoye et son successeur ont rendez-vous dans une heure au ministère. Le nouvel homme de la situation s'appelle Laurent Pietraszewski, nommé dans la nuit. Il est député En Marche, son portrait dans un instant. Il va sans doute rester dans l'ombre d'Édouard Philippe aujourd'hui, qui reçoit tous les syndicats un à un dans l'espoir de retourner la CFDT. On verra quelles sont ses marges de manœuvre. Et puis nous traverserons la région parisienne du nord-est au sud-ouest en s'armant de beaucoup, beaucoup de patience, comme les usagers des transports en rade depuis presque 15 jours. À 8h20, le grand entretien avec un président qui a connu la contestation. Lui aussi, c'était la loi travail en 2016.
Oui, l'ancien président de la République, François Hollande, au micro d'Inter, dans une bonne vingtaine de minutes, amis auditeurs. Appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000. Vos questions aussi sur l'application France Inter et les réseaux sociaux.
Dans ce journal aussi, Donald Trump face à l'impeachment, voté aujourd'hui par la Chambre des représentants, pas de problème, il garde le soutien de ses électeurs. Le ski et la compétition à l'heure du changement climatique. Et Beethoven, célébré jusqu'en décembre 2020 en Allemagne, ce sera les 250 ans de sa naissance. Beethoven utilisé à toutes les sauces musicales, car c'est aussi une icône pop. Mais oui.
France Inter.
Il y aura un petit nouveau ce matin à Matignon pour recevoir les syndicats avec Édouard Philippe, pas un perdreau de l'année. Il a 53 ans, il s'appelle Laurent Pietraszewski, alias Monsieur Retraite, nommé cette nuit pour remplacer Jean-Paul Delevoye et récupérer la réforme la plus contestée depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Bonjour Yael Gauze.
Bonjour Florence.
Qui est cet homme dont le nom, il faut bien le dire, ne nous dit pas grand-chose.
Marié, deux filles, ex-DRH chez Auchan, pionnier d'En Marche dans le Nord, aucun mandat avant celui de député, décroché face au FN. Très vite repéré dans le groupe En Marche pour sa connaissance du monde de l'entreprise, rapporteur de la loi travail, lui-même membre du COR, le Conseil d'orientation des retraites, il pilotait jusqu'à maintenant un groupe de 38 députés marcheurs chargés d'être les ambassadeurs de la réforme sur le terrain. Et si Delevoye n'avait pas trébuché, c'est lui qui en aurait été le rapporteur l'an prochain, Laurent Pietraszewski, évidemment parfaitement aligné avec Matignon.
L'intérêt de l'équilibre financier, c'est tout simplement d'alimenter la confiance. Et la question qui est une question qui est beaucoup revenue, c'est va-t-on associer les partenaires sociaux au pilotage et à la fixation de la valeur du point? La réponse, c'est oui.
Laurent Pietraszewski, le 5 décembre sur France Info, parlementaire expérimenté et légitime pour occuper une fonction exigeante et technique, voilà ce que dit l'Élysée ce matin. Autrement dit, à lui la mécanique et les réglages, à Matignon tout le pilotage politique, un profil qui évite aussi à l'Élysée de remanier en puisant dans les ministères déjà installés. Dans sa déclaration d'intérêt, le nouveau secrétaire d'État déclare près de 72 000 euros nets de son employeur Auchan. Il est aussi coach bénévole pour aider à la création d'entreprises. Les syndicats le connaissent. À la CFDT, on le considère comme l'homme de confiance d'Édouard Philippe, ce qui pourrait créer des étincelles avec l'aile gauche de la majorité. Enfin, né avant 75, il n'est donc pas lui-même concerné directement par la réforme.
Alors, Laurent Pietraszewski arrive après la troisième journée de mobilisation nationale contre cette réforme. 1 800 000 manifestants selon la CGT, c'est plus que le 5 décembre. 615 000 selon la police, c'est moins que le 5 décembre, malgré la présence de la CFDT et des réformistes. Yael, est-ce que ça va compter dans les négociations d'aujourd'hui?
Alors c'est vrai, ce mur du 5 décembre n'est pas devenu une muraille. Au contraire, c'est ce qu'on observe à Matignon, qui en conclut que le secteur public est mobilisé mais que le privé n'embraye pas. Pour autant, pas question de bomber le torse. Édouard Philippe veut réembarquer la CFDT pour mieux isoler le bloc anti-réforme CGT-FO. C'est l'enjeu des prochaines 48 heures pour Matignon. Édouard Philippe, raisonnablement optimiste, comme il dit, mais personne ne fait le pari que ce format Grenelle suffira à déblayer complètement le terrain avant Noël.
Yael Gauze, merci. On l'a donc compris, le but de ces négos de Matignon, c'est d'amadouer la CFDT, les réformistes vent debout contre le principe de l'âge pivot, 64 ans pour partir avec une retraite complète. Fabien Cazot du service économie de France Inter est aussi avec nous. Bonjour Fabien.
Bonjour.
On imagine qu'Édouard Philippe, qui reçoit, a de quoi lâcher pour tenter de faire pencher la balance.
Oui, alors pas sur l'âge pivot à ce stade. Tout laisse penser que le chef du gouvernement tient à cette borne de 64 ans au grand dam de la CFDT qui va revenir à la charge aujourd'hui sur le sujet à Matignon. Édouard Philippe a dit et redit ces derniers jours qu'il tenait à l'équilibre financier du système des retraites. Aucune inflexion donc à ce stade sur son entrée en vigueur progressive à partir de 2022. En revanche, il peut y avoir des contreparties à négocier. La première d'entre elles, c'est une meilleure prise en tenant compte de la pénibilité. Outre une réintégration de critères comme le fait de porter des charges lourdes ou d'être exposé à des produits chimiques qui avaient été supprimés en 2017 pour l'ensemble des salariés, il pourrait y avoir des arbitrages en faveur des fonctionnaires et des cheminots qui perdront leur clause particulière en basculant dans le régime universel. Il va aussi y avoir des discussions sur le niveau minimum des pensions garanties à 1000 euros par le gouvernement. Les syndicats réclament plus. Autre débat sur les pré-retraites. Comment réduire l'activité en fin de carrière tout en conservant un bon niveau de rémunération? Pas question en revanche de toucher aux cotisations patronales. C'est une demande de certains syndicats à mettre les entreprises davantage à contribution pour financer les retraites. Idée jugée dans la majorité à contre-courant de la politique économique menée depuis le début du quinquennat.
Et sans attendre les négociations de Matignon, merci Fabien Cazot. Ceux qui réclament le retrait pur et simple de la réforme CGT, FO et les autres appellent dès demain à des actions locales, puis jusqu'à la fin du mois de décembre. Pas de trêve de Noël donc. Autant dire que la SNCF n'a pas fini de se casser la tête pour acheminer les vacanciers dans les deux semaines qui viennent. Hier, les deux tiers des voyageurs munis de billets pour ce week-end ont vu leur train confirmé ou décalé. Il reste une incertitude pour 30% des voyageurs censés changer leur billet eux-mêmes. Et pour 10 à 15% d'entre eux, il n'y aurait pas de solution, a confié la SNCF au journal Le Parisien ce matin. Et pour les transports du quotidien, ceux des travailleurs de la région parisienne surtout, ce mercredi est un nouveau chemin de croix pour arriver à bon port. Un transilien sur quatre en moyenne, 8 lignes de métro fermées. Ça fait 14 jours que ça dure, presque 2 semaines à se réveiller au milieu de la nuit pour certains, comme ces salariés partis de Bobigny, direction Paris, avec Rémi Brancato ce matin.
Il est 4h20 ce matin à la gare de bus de Bobigny. Josiane vient d'arriver.
Je suis venue pour prendre le N13, mais malheureusement, il n'y en a pas.
Madame, vous avez un bon plan pour nous ?
Le N41, il devait passer. S'il ne bloque pas le dépôt de bus.
Depuis 2 semaines, les usagers s'entraident, se donnent des conseils. Josiane doit aller à l'hôpital Georges Pompidou, sud-ouest de Paris. Finalement, elle monte dans le 134.
Ce bus, il va jusqu'à Fort-de-Bervilliers. Et il y a un collègue qui vient me dire que à Fort-de-Bervilliers, on va rattraper une autre bus, le numéro combien, je ne me rappelle plus.
Il faut changer de trajet tous les matins.
Tous les matins. En partant, en rentrant à la maison, il faut changer de trajet.
Arrivé à Fort-d'Aubervilliers, il faut attraper le 173 direction Porte de Clichy.
173, attends, non, tu cours pas.
Mais ce n'est pas fini pour Josiane à Porte de Clichy. Il faut prendre un troisième bus, la ligne PC, pour enfin rejoindre le sud-ouest de Paris.
Oh, il y a beaucoup de marche à faire. Oh, faut que ça arrête la grève. J'en peux plus, je suis de votre côté, mais arrêtez.
Vous dites je suis de votre côté quand même.
Oui, je les soutiens, parce que la retraite, c'est moi aussi, je vais traiter mes enfants aussi.
Une fois à bord, Josiane peut s'asseoir, c'est un peu plus confortable, mais la quinquagénaire commence à fatiguer.
Des fois, ça m'arrive de me réveiller à 1h du matin, et j'ai plus sommeil, je dis comment je vais faire, quel itinéraire je vais passer aujourd'hui. Bientôt les vacances, j'ai acte d'être en vacances, c'est vendredi. Hein.
Josiane arrive finalement à 6h45, après plus de 2 heures de trajet contre 1 heure en temps normal.
Voilà, Rémi Brancato et cette diagonale infernale du nord-est de Paris au sud-ouest de la capitale. Et dans la série, la grève se voit et se ressent. Ces coupures d'électricité depuis lundi soir, revendiquées par la CGT, elles ont touché au moins 170 000 abonnés en Gironde, à Lyon, à Nantes, Orléans, Boulogne-sur-Mer ou Paris hier soir. Inadmissible, vient de dire la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne sur France Inter. Elle demande au patron de la CGT, Philippe Martinez, de clarifier sa position sur le sujet. Rien à voir non plus avec ce qu'il est possible de faire quand on manifeste. Le saccage et l'incendie du péage de Narbonne et de sa gendarmerie est jugé cette semaine en correctionnel. C'était il y a 1 an, en marge du mouvement des Gilets jaunes. 31 personnes ont été identifiées. De la prison ferme a été requise hier contre 27 d'entre eux. La procureure Alain Gastal a dénoncé des scènes de chaos, de guérilla, d'apocalypse.
La plupart des prévenus ont reconnu avoir lancé des pierres ou des cailloux et même quelques cocktails Molotov sur les gendarmes et s'être ensuite servi dans les locaux avant d'y mettre le feu. Certains cherchent maladroitement quelques excuses. J'avais trop bu, fumé un peu trop de cannabis, je me suis laissé entraîner par l'effet de groupe. Autant de paroles malheureuses, reprises à la volée par l'accusation. Ce sont autant de circonstances aggravantes. Elles vont alourdir les peines pour des faits parfois dérisoires. Prison ferme requise pour entrave à la circulation et recel d'une veste ou d'un casque de gendarmerie. En comparaison, les peines demandées pour ceux qui ont lancé des pierres semble presque modéré. 3 à 5 ans de prison, une seule fois 6 ans, bien loin donc des peines maximales, mais surtout sans mandat de dépôt demandé et avec même des aménagements de peine proposés pour ceux qui présentent ne serait-ce que le début d'une esquisse d'insertion sociale. Si elle a voulu à tout prix rassurer les gendarmes, la société est bien de leur côté. L'accusation n'a pas voulu non plus accabler plus que nécessaire les enfants perdus de la France périphérique. Narbonne, Alain Gastal, France Inter.
Contre les violences conjugales, le Parlement adoptera définitivement le principe du bracelet anti-rapprochement. Aujourd'hui, cette proposition d'un député LR permet de géolocaliser et de maintenir à distance les conjoints ou les ex-violents sans attendre une condamnation.
Il est 8h10, Florence. À l'étranger, Donald Trump aujourd'hui deviendra le troisième président américain renvoyé en procès pour destitution.
Le vote de la Chambre des représentants à majorité démocrate ne fait aucun doute, comme à l'inverse celui du Sénat à majorité républicaine qui aura à juger le président et qui ne le condamnera pas pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. Trump est accusé d'avoir demandé au président ukrainien cet été d'enquêter sur un rival politique en y conditionnant l'aide militaire des États-Unis. Logiquement, ça devrait le plomber à 11 mois de la présidentielle. Mais non, explique Célia Belin, chercheuse au Brooklyn Institute de Washington, Trump peut dormir tranquille.
Trump est un phénomène un peu particulier parmi les présidents américains, c'est-à-dire que sa cote de popularité est pratiquement totalement indépendante de l'actualité. Et on le voit particulièrement avec l'impeachment. Ce qui est spectaculaire, c'est que ça n'a eu aucun effet sur sa base électorale qui va continuer à soutenir Donald Trump. Et à la limite, l'impeachment l'aide parce que ça va lui permettre d'expliquer qu'il a toujours été depuis le départ victime d'une chasse aux sorcières de la part des démocrates. Et donc, ça va juste renforcer le sentiment que le président est assiégé et donc que ses supporters doivent se rallier derrière lui. Évidemment, par ailleurs, un président qui a été impeached par la Chambre des représentants, ça n'est pas anodin. C'est arrivé que 3 fois dans l'histoire. Et donc, au regard de l'histoire, il sera fragilisé comme président puisqu'il aura été reconnu coupable, ne serait-ce que politiquement, d'avoir commis un méfait qui justifie son impeachment.
Célia Belin, chercheuse au micro de Grégory Phillips. Le procès de Donald Trump devant le Sénat va commencer en janvier. Citroën, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Opel, Maserati, bientôt sous la même bannière. La fusion suit son cours. Entre PSA et les Italo-Américains de Fiat Chrysler, un accord de rapprochement engageant, c'est le terme employé, vient d'être signé, prélude à la naissance du quatrième groupe automobile mondial. Leurs futures voitures à ce groupe, à cette alliance économique, leurs futures voitures électriques vont coûter moins cher. C'est en tout cas ce que veut croire le gouvernement, qui annonce du coup la baisse du bonus écologique en 2021 et 2022, 5 000, puis 4 000 euros maximum au lieu de 6 000 actuellement, dont ont bénéficié 50 000 acheteurs de voitures électriques cette année. Pas de malus, en revanche, pour les stations de ski qui usent et abusent de la neige de culture à cause du réchauffement climatique. Certaines commencent à penser à réduire leur empreinte carbone, ce qui est absolument impossible pour l'instant dans le milieu professionnel. En ce moment, c'est la Coupe du Monde de ski à Val d'Isère et les skieurs le reconnaissent, leur discipline n'est pas vertueuse, c'est même un cercle vicieux, Guillaume Batin.
Quand Michel Vion disputait la Coupe du Monde de ski dans les années 80, il se préparait durant l'été sur les pentes des glaciers français à Tignes aux Deux-Alpes. Impossible aujourd'hui, alors le président de la Fédération française de ski doit organiser des voyages à l'autre bout du monde pour ses athlètes.
On doit aller chercher la neige là où elle est, en hémisphère sud, alors qu'il y a encore 10 ans, elle se faisait sur nos glaciers en Europe et en France en particulier. Et maintenant, il faut aller chercher la neige en Australie, en Nouvelle-Zélande, et on n'a pas le choix. D'avoir l'obligation de modifier et de faire évoluer nos schémas, mais c'est comme ça.
Les meilleurs skieurs français ont tous grandi en montagne, et ils ont vécu les premières conséquences du réchauffement climatique. Alexis Pinturault, le leader de la Coupe du Monde, s'est préparé cet été à Ushuaia, en Patagonie, et il pense que le ski de haut niveau devrait montrer l'exemple.
Regrouper les épreuves féminines et les épreuves masculines. On est l'un des rares sports où les deux sont jamais au même endroit, où du coup ça engendre énormément de déplacements. Faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain on fasse plus de déplacements et qu'on les fasse tous en bus, hein, faut pas rêver. Hein. Mais ça c'est déjà un pas qui peut être immense.
Le stockage de la neige, souvent artificielle, permet encore d'organiser les compétitions, mais le calendrier et la carte de la Coupe du Monde pourraient bientôt être modifiés. Courchevel, Guillaume Batin, France Inter.
Et ce sujet, on le retrouve sur franceinter.fr. Reims et Lille qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. C'est du foot. Les nordistes ont laminé Monaco 3-0. Reims a battu Montpellier 1-0. Ce soir, place au PSG face au Mans, dernier club de deuxième division encore en lice. Enfin, si je vous dis pop-pop-pom,
oui.
Alors ne me dites pas Radio Londres, non, c'est pas ça, c'est Beethoven. Ouais. Les 4 premières notes les plus connues de la musique classique, vous en conviendrez, Nicolas. De Beethoven, donc, dont l'Allemagne va célébrer toute l'année les 250 ans de sa naissance à Bonn, Beethoven, où la fierté éternellement renouvelée des Allemands, Ludovic Piétenu.
tout le monde connaît ses œuvres, sans forcément pouvoir les nommer comme cette cinquième symphonie. Ludwig van Beethoven est une pop star de 250 ans, disait de lui il y a quelques jours l'hebdomadaire allemand Der Spiegel en le mettant à sa une. Pop star car sa musique est présente partout, quitte à être détournée, comme ici dans le film La fièvre du samedi soir avec une cinquième symphonie très disco. Des DJ en ont fait des tas de remixes. Quant aux premières notes de la 9e symphonie, on pense inévitablement au film Orange Mécanique, cette ode à la joie qui deviendra plus tard en 1986 l'hymne européen que tous les Allemands connaissent par cœur. En France, quand ce n'est pas Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday sur un texte de Philippe Labro déclame un poème sur la 7e.
Qui a couru sur cette plage ?
Ce second mouvement de la 7e symphonie, aussi repris dans des films comme Le discours d'un roi, et on pourrait continuer la liste, sa musique a même été envoyée dans l'espace. C'est cette omniprésence des œuvres de Beethoven dans nos vies qui font de lui l'un des compositeurs les plus mythiques. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Est-ce que vous voulez un shoot de Beethoven, Nicolas ?
Avec plaisir.
Parce qu'on en aura tous les matins, figurez-vous, dès lundi prochain, pendant toutes les vacances de Noël, à 7h55, grâce à Anna Sigalevitch. Un shoot de Beethoven.
Merci Florence Paracuelos.